Radio Django. Vivre à Lausanne.
Fabio, nous allons vernir ce mardi une nouvelle rubrique bimestrielle, donc tous les deux mois, rubrique qui est dictée par la sortie du journal roman d'écologie politique.
Objections de croissance, qui veut ainsi animer les débats politiques romands, même nationaux, sur les questions écologiques trop souvent banalisées dans les médias dominants. Moi, qui aspire à promouvoir et à diffuser les idées de la décroissance et à s'attaquer de fait à la religion de la croissance économique.
Il s'agit donc d'un journal de contestation, voire de résistance.
Oui, sans doute. Ces pages sont truffées d'exemples de pistes alternatives à la croissance et il est dès lors un lieu de réflexion, mais aussi d'action pour construire une façon de vivre ensemble plus égalitaire et solidaire. Mais il se veut en même temps un espace ouvert à des voix dissidentes, à des sujets et à des questions tabous. Il est construit donc sur les articles de fond et de réflexion ainsi que sur des témoignages de personnes sur le terrain. Chaque numéro peut compter sur la collaboration d'une équipe de rédacteurs et de rédactrices ainsi que des dessinateurs, dessinatrices entièrement bénévoles ainsi que toute une série d'autres personnes dont on parlera peut-être un petit peu plus tard.
Eh bien, évidemment. Et c'est ce qui correspond visiblement à l'éthique du journal.
Oui, journal qui est présenté logiquement sans publicité, libre de toute attache politicienne. Bref, un canard de qualité de 32 pages, ce n'est pas rien. Nous l'avons sous les yeux. Mathieu vient de nous l'amener. Il est vendu selon le principe du prix libre, tant au numéro qu'à l'abonnement, et il est également disponible en kiosque. Et là, il se vend à 5 francs.
Oui, tout à fait abordable. Pour en parler ce soir, nous accueillons Mathieu Glaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Tu es un des membres fondateurs de Moi. On va commencer peut-être à parler directement au titre, on pourrait presque le dire comme ça, l'écologie politique romande. Quelques mots là-dessus, peut-être, pour nous expliquer.
Quelques mots, je ne sais pas, quelques heures pour en parler, l'écologie politique. Alors comment on pourrait essayer de dire ça sans être trop long? J'ai l'impression que quand on parle d'écologie, on parle peut-être souvent de ce qu'on pourrait appeler l'environnementaliste, c'est-à-dire de protéger les animaux, de protéger certaines plantes qui disparaissent, de protéger certaines pollutions. Et puis la réflexion qui est derrière l'écologie politique, qui naît donc surtout les années 70, est une réflexion qui cherche à aller un petit peu plus loin, de se dire que ce n'est pas par hasard que nous avons certains problèmes écologiques, certains problèmes sociaux, mais que c'est dû à un problème, disons, d'organisation sociale. Et donc il ne suffit pas de travailler sur les symptômes, d'essayer de protéger une fleur ou de protéger un ours ou de protéger un panda, ce qui est également nécessaire, mais qu'il faut essayer de réfléchir un petit peu plus loin sur les structures sociales, politiques, économiques qui créent ce genre de problème, puisque voilà, les sociétés modernes sont un peu les premières à créer des problèmes écologiques aussi nombreux et aussi graves. Donc on ne peut pas s'empêcher d'analyser le fonctionnement social, politique d'une société et d'essayer de trouver des solutions global, politique, si on veut pouvoir protéger la nature. Donc voilà, l'écologie politique, c'est ça.
C'est une sorte d'homéopathie. On va chercher les raisons de la maladie et on...
Oui, dans ce sens-là, on pourrait dire qu'on essaye d'aller aux sources, on essaye d'être radical au sens premier du terme, c'est-à-dire d'aller aux racines et de ne pas se contenter effectivement de traiter les symptômes, tout à fait.
Alors, on plonge dans ce 22e numéro de Moi, qui vient de sortir, comme je le disais tout à l'heure, et que nous l'avons sous les yeux pour la première fois. Donc, tout d'abord, il faut dire qu'à l'intérieur, il y a plusieurs articles, mais il y a un dossier. À chaque numéro, il y a un dossier, et cette fois-ci, le dossier, il s'appelle « Cultivons notre avenir ». Une dizaine d'articles pour parler de l'agriculture qui est présentée comme productiviste et qui n'a pas d'égard pour la terre, les sols et l'air, ni pour celles et ceux qui la cultivent, dont tu viens de nous parler un peu. Et dans ce dossier, vous amenez des réflexions, des constats et des pistes pour sortir de cette ornière productiviste.
Oui, donc d'abord peut-être effectivement, comme tu le signalais, en termes de structure de journal, pour les gens qui nous écoutent, ce qu'on essaye de faire, c'est, depuis le début, on a un peu trois genres d'articles. On s'est dit que c'était intéressant, effectivement, d'essayer de comprendre plus à fond une problématique, une thématique, et pour ça on fait un dossier où on essaye d'aborder une thématique selon différents angles, d'approfondir. On essaie d'avoir des articles d'actualité pour parler de, entre guillemets, la même chose dont parlent les gens, les médias, les politiciens, mais de les aborder sous un autre angle. Et puis on a des rubriques qui reviennent, voilà, des portraits, etc. Donc dans ce numéro, effectivement, le débat est porté sur l'agriculture, puisque voilà, enfin, ça semble relativement clair pour beaucoup de gens, mais je crois pas tellement pour le système actuel, que la production de nourriture est absolument fondamentale pour n'importe quelle société humaine, et qu'il serait la moindre des choses de traiter correctement celles et ceux qui produisent notre nourriture, et puis ce qui permet la production de notre nourriture, c'est-à-dire les sols, les eaux, etc. Et il devient de plus en plus clair que l'agriculture moderne, malgré ce que pas mal de gens pensent, qu'elle permettrait de peut-être nourrir plus de monde, etc. Mais ça semble de plus en plus clair que ce n'est pas le cas, qu'elle est extrêmement destructrice des écosystèmes, des personnes, des savoir-faire, et qu'elle est absolument non durable. Donc voilà, on a essayé d'apporter une contribution à ce débat avec, d'un côté, une certaine analyse des problématiques de l'agriculture moderne, productiviste, industrielle, et de l'autre, eh bien, d'essayer d'apporter certaines pistes, certaines alternatives qui sont déjà en route. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, et on parle pas simplement de permaculture dans ce dossier, qui nous semble être l'une des approches de l'agriculture la plus pertinente actuellement. C'est une... Je sors autant de la bibliothèque que de la librairie, là, et je me suis aperçu qu'il y a vraiment une flopée de bouquins sur la permaculture, donc c'est vraiment quelque chose qui est à la mode. Et ce serait intéressant de savoir pourquoi est-ce que c'est vraiment à la mode, est-ce que c'est une mode qui va durer. Mais en tout cas, les prémices de la permaculture sont, à notre avis, extrêmement intéressantes. C'est une des manières d'appréhender la production agricole qui nous semble la plus... profonde, la plus intéressante.
Donc, parce qu'elle ne prend pas en compte seulement justement le traitement de la terre ou d'une façon biologique, etc., mais elle pense aussi aux êtres humains, à celles et ceux qui travaillent cette terre.
Oui,
c'est bien ça, hein, la permaculture dans ce sens entier.
Voilà, elle a vraiment une approche holistique.
Ouais.
Si elle est partie vraiment de l'agriculture, on parlait au début donc d'agriculture permanente, mais maintenant on parle plus de permaculture, de culture permanente, ouais, en englobant voilà, la maison, la culture, donc vraiment une
les
forme,
rapports sociaux,
voilà,
les rapports de mm-hmm, aussi de négoce, les rapports politiques et sociaux
à l'intérieur de la production, ouais, de nourriture. Donc oui, c'est vraiment une approche intéressante. C'est aussi une des très rares approches de l'agriculture, en particulier dans les approches, on peut dire, biologiques ou alternatives. Il y en a très peu qui parlent de démécanisation ou de démotorisation. Ouais. C'est-à-dire que dans la plupart de l'agriculture bio aujourd'hui, on fait en gros la même chose avec un peu moins de produits chimiques, mais ça reste des salaires qui sont très bas dans l'agriculture biologique, ça reste distribué par la grande distribution, ça reste
très mécanisé aussi,
dépendant du pétrole. Exactement. Ouais. Et la permaculture est une des rares approches qui réfléchit sur comment pourrait-on démécaniser l'agriculture, avoir une véritable agriculture qui nourrisse tout le monde sans être dépendant du pétrole.
Ce qui est intéressant de ce dossier, c'est qu'effectivement, il mêle des articles de réflexion de fond que vous menez vous-même aussi à l'intérieur de la rédaction de moi. Vous amenez des réflexions de fond d'autres personnes et aussi du travail de... vous interviewez toi-même, tu interviews quelqu'un qui est sur le terrain, mm-hmm, puis qui vit la démécanisation. Hein.
Oui.
Simplement pour dire que ce dossier, il semble assez... comment se présente là, assez complet. L'idée, c'est bien sûr de lancer le débat aussi.
Oui, tout à fait. Depuis le début, le but du journal, pour moi en tout cas, mais je crois aussi pour mes camarades, c'est pas forcément, enfin, c'est pas de dire on sait ce qu'il faut faire, si vous faites comme ça, tout ira bien. On n'est pas une sorte d'avant-garde éclairée. Il nous semble juste qu'il y a certaines questions, certaines problématiques qu'on ne se pose pas assez. Qu'il y a certaines manières d'aborder les problèmes qu'on passe sous silence, et puis que si on les met en lumière, on arrive à avoir une réflexion plus riche et plus profonde. Donc c'est un peu ça surtout le but du journal, c'est effectivement de lancer le débat. De toute façon, le mouvement pour la décroissance reste un mouvement petit, marginal, qui n'a quasiment pas de relais politique. Donc voilà, le travail qu'on essaye de faire, c'est d'essayer d'apporter le débat sur la place publique, de dire, ben voilà, les gars, il y a des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse ensemble, il y a des questions qu'on doit se poser, et puis essayons d'apporter certaines idées. Donc on n'a ni prétention d'exhaustivité, ni de savoir ce qu'il faut faire, mais voilà, ce qu'on essaie de faire, effectivement, c'est de porter le débat sur la place publique. Et du coup, ça me permet de vous remercier de nous donner cet espace, parce que c'est justement ce qu'on essaye de faire.
Alors voilà, pour ce qui est de ce dossier... Cultivons notre avenir sur l'agriculture, notamment la démécanisation et toute une série d'autres réflexions sur la culture, même si elle est se définit comme biologique, il y a encore du chemin à faire. D'autres parties du journal, qu'est-ce que tu nous conseilles de lire, Mathieu?
Excellente question.
Une deuxième partie qui parle d'Ivan Illich, une deuxième.
Oui, alors c'est pas une deuxième partie, non, ça c'est ce qu'on peut appeler un peu les. Ça commencera à devenir un peu une rubrique, c'est-à-dire que Ivan Illich, donc pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas ou les auditrices qui ne le connaîtraient pas, c'est une personne, enfin je ne vais pas pouvoir le définir ici parce que c'est quelqu'un d'assez inclassable, oui. Mais qui fait partie de cette vague de penseurs et d'activistes des années 70 qui ont commencé à critiquer le modèle occidental de développement matérialiste, productiviste, etc., etc., qui a inspiré tout plein de penseurs alternatifs et de pratiques alternatives dans l'éducation, dans la santé, etc. Et puis, donc, c'est un des sources d'inspiration du mouvement de la décroissance. Et puis, en collaboration avec Jean-Michel Corradjou, qui est l'animateur du Cercle des lecteurs d'Ivan Illich, ici à Lausanne, qui est un ami d'Ivan Illich et de personnes proches d'Ivan Illich, on a décidé d'essayer de lancer une sorte de rubrique qui serait une sorte d'Illich pour les nuls, d'essayer de diffuser un peu plus largement ces modes de pensée, ces analyses qui sont pas forcément faciles d'accès, qui posent des questions très intéressantes. Et donc là, c'est le deuxième article qui va dans ce sens-là, d'essayer de diffuser la pensée d'Ivan Illich.
Alors, ce n'est qu'une petite partie de ce qu'on peut lire dans moi. On a le temps qui passe très rapidement. Il y a notamment chaque fois « Penser avec les grands ». Vous présentez une figure, des figures qui ont contribué à nourrir idées, questionnements des objecteurs de croissance. Cette semaine, cette édition, c'est Paolo Pozzolini. Il y a, je vous laisserai découvrir dans ce numéro, Faire l'amour en conscience, sous la rubrique Alternative collective. C'est assez marrant, sous la forme d'une petite BD.
Oui, ça faisait longtemps que la rédaction de moi se demandait quand on allait enfin réussir à parler de sexe dans le journal.
Ok, avec des dessins.
Voilà, c'est fait.
Oui, c'est fait. Enfin, il y a plein d'autres articles aussi très politiques, je trouve, sur la Syrie, notamment un article que tu signes, je crois.
Non,
c'est pas toi qui signes, pardon. Article sur la Syrie qui se demande pourquoi on parle de si peu de ceux qui fonctionnent bien dans ce pays. Et puis, il y a des exemples d'anarcho-féministes au pays de Daesh. Bref, c'est extrêmement intéressant. Il y a même un article sur Radio Django, merci, parce que voilà, vous nous avez demandé aussi d'écrire quelque chose. Et sinon, quel futur, quels sont les défis de moi?
Alors pour le moment, il y a un gros défi, malheureusement, comme on peut le lire en première page sur l'édito, aussi en deuxième page, l'un des cofondateurs du journal nous a quittés il y a un mois. Notre ami Mirko Locatelli s'est suicidé. Voilà, le journal traverse une phase très difficile, très nette, de loin la plus difficile qu'il a traversée depuis le début. D'abord parce que, voilà, humainement parlant, perdre un ami de cette manière, c'est lourd. Mm-hmm. Et puis de l'autre, de manière très pragmatique, le journal est fait par une très petite équipe de volontaires depuis 3 ans et demi. Et voilà, on dit que les cimetières sont peuplés de gens irremplaçables, de manière un peu ironique, mais pour nous, c'est plutôt vrai. C'est impossible de remplacer une personne comme ça, donc on ne sait pas trop. Voilà.
Bon, actuellement, personne extrêmement importante.
Voilà, dans, on ne sait pas exactement comment va être le futur. On espère pouvoir continuer, mais on ne sait pas.
Vous vous posez des questions, d'ailleurs, c'est dit aussi dans le journal. Vous posez aussi les questions aux lecteurs et lectrices.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'on fait bien d'imaginer peut-être une semi-professionnalisation de quelqu'un, ou bien d'ouvrir à d'autres, à des synergies avec d'autres journaux comme Décroissance ou un autre journal belge dont je ne me rappelle plus le nom. Bien, on ne peut que souhaiter de te ou vous rencontrer lors de la prochaine, peut-être en essayant d'avoir un petit peu plus de temps pour discuter des différentes parties du journal, pour faire envie de le lire. Les points de vente.
Alors, les points de vente, moins disponibles dans la plupart des kiosques, enfin, une bonne partie des kiosques officiels.
Au prix de 5 francs.
Au prix de 5 francs. Oui. Et puis ensuite, il y a toute une série de lieux alternatifs à Lausanne, à Genève, enfin un peu dans toute la Suisse romande, des bibliothèques alternatives, des centres culturels. Maintenant, moi, j'aurais pas à vous dire maintenant à Lausanne dans quel endroit ils sont disponibles. L'endroit le plus simple, c'est dans les kiosques. Ou bien on peut simplement nous écrire et puis nous demander d'envoyer un...
achetez-moi.ch, c'est bien ça, hein?
info@achetez-moi.ch.
Okay. Oui, et puis on peut s'inscrire sur votre site aussi, j'imagine, achetez-moi.ch,
oui,
pour s'abonner.
Tout à fait.
Et le recevoir à la maison directement.
Exactement.
Voilà qui est une excellente nouvelle. Et on rappelle que Mathieu Glaire, aujourd'hui, vous êtes venu nous parler, puisque c'est la sortie aujourd'hui même de ce numéro d'avril-mai. Hein.
Oui, tout à fait.
Et puis, alors, on aura le plaisir de vous retrouver d'ici 2 mois pour l'édition de juin-juillet. Est-ce que vous avez déjà une petite trame, une petite idée de quoi il va traiter, un gros dossier?
Oui, alors normalement, comme je le disais tout à l'heure, on a pas mal de doutes actuellement. Est-ce qu'on va arriver à sortir le numéro? Qu'est-ce qui va se passer? Mais a priori, il devrait sortir un petit peu plus vite, c'est-à-dire autour du 20 mai, oui, parce que le dossier va traiter sur le revenu, sur l'initiative, sur le revenu...
Effectivement, on vote le 5 juin dessus, hein, sauf erreur.
Voilà, comment ça s'appelle, l'initiative sur le revenu de base inconditionnel, voilà. Donc le dossier devrait traiter de ce thème-là.
On aura l'occasion donc de vous recevoir fin mai, début juin. On vous remercie beaucoup, Mathieu Glaire. Vous êtes membre fondateur de ce magazine, de ce journal Moi. Merci d'être venu nous en parler ce soir sur les ondes de Radio Django. On vous rappelle encore le site achetez-moi.ch ou bien encore le réseau d'objecteurs de croissance, décroissance.ch. Merci Mathieu Glaire.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Et merci Fabio pour le sujet.